L'émission d'aujourd'hui portera sur une expression assez courante, dont le sens est si complexe et les usages si diversifiés, qu'elle mérite, je crois, toute notre attention. Je veux parler de l'expression « faire son deuil ». La formule appartient au langage courant, pour parler d'un simple renoncement à quelque chose, et on la trouve associée dans cette exception à n'importe quelle situation. On parle par exemple de la fin du deuil colonial pour dire que les anciennes nations colonisatrices commencent à oublier leur culpabilité et que d'autres envisagent, peut-être gaiement, de se relancer dans cette aventure. Certains font leur deuil des 35 heures, d'autres nous demandent de faire notre deuil d'un remboursement intégral des soins, sauf si on doit mourir assez vite. Et dans toutes ces figures de style, on finit par oublier que c'est précisément la mort qui rôde, pas la mienne, celle d'un autre, dont précisément je porte le deuil. Faire son deuil, qu'on le veuille ou non, c'est accepter la disparition définitive et douloureuse de quelqu'un ou de quelque chose. Alors, que signifie exactement cette expression « faire son deuil » ? Le mot français « deuil » vient du bas latin « dolus » qui signifiait « douleur ». L'ancien français a connu des formes intermédiaires en « dol » et « duel » au Xe et XIe siècle, au sens d'affliction causée par la mort de quelqu'un, et cette graphie « duel » est restée attestée jusqu'au XVIe siècle. Notons cette insistance de la langue. Que la souffrance du deuil soit toujours d'une certaine façon un duel intérieur, c'est précisément ce que nous apprendra l'idée psychanalytique de travail du deuil. Employé au sens propre, le deuil en français signifie précisément la douleur, l'affliction que l'on éprouve à la suite de la mort de quelqu'un. Le mot deuil désigne aussi les marques extérieures de cette douleur, réglées par l'usage, l'ensemble des signes extérieurs, notamment les vêtements, liés à la mort d'un proche, et cela depuis le XIe siècle également. En 1050, on trouve le mot « dol » au pluriel « dols » pour désigner les lamentations, les signes extérieurs de l'affliction. Le mot « deuil » en français d'aujourd'hui signifie aussi le temps du deuil, la durée tout au long de laquelle on porte le deuil, on doit laisser voir certains signes d'affliction. C'est un sens qui apparaît au milieu du XVIe siècle et qui n'est pas non plus en rapport avec l'idée d'une durée d'accomplissement du deuil, à la fois sociale, extérieure et subjective, psychique, intérieure. Par métonymie, à partir du XVIIe siècle, le mot deuil a fini par désigner non plus la douleur, mais le fait de perdre un parent ou un proche, la situation consécutive à cette perte et le cortège funèbre lui-même. Enfin, par extension, le mot deuil a été employé à partir du XVIIIe siècle et surtout au XIXe pour désigner un sentiment de profond chagrin lié à une cause occasionnelle, un départ, une rupture, ou même un sentiment de tristesse inspiré par le spectacle de la nature, les teintes sombres, l'obscurité de la nuit. Voilà pour le mot « deuil ». Quant à l'expression figurée « faire son deuil » qui nous intéresse aujourd'hui, elle est apparue en 1823 au sens de « se consoler de »,« renoncer à »,« admettre la perte de ». Mais l'expression existait en fait depuis la fin du XVIe siècle sous la forme de « passer son deuil ». Au XXe siècle, l'usage de la formule acquiert une valeur familière. On peut l'employer en oubliant complètement l'idée de mort et de douleur pour dire simplement un léger regret qui se trouve associé à une perte. Par exemple, je peux dire « ça va faire plus d'un an qu'il me doit les 1000 euros que je lui avais prêtés, il ne me les rendra pas, je crois que je peux en faire mon deuil. »
Jadis les parents des morts vous mettaient dans le bain, de bonne grâce ils en faisaient profiter les copains. Il y a un mort à la maison si le cœur vous en dit, venez pleurer avec nous sur le coup de midi. Mais les vivants aujourd'hui ne sont plus si généreux. Quand ils possèdent un mort, ils le gardent pour eux. C'est la raison pour laquelle depuis quelques années, des tas d'enterrements vous passent sous le nez. Des tas d'enterrements vous passent sous le nez. Mais où sont les funérailles d'antan ?
Le deuil comme processus, l'idée de faire son deuil, a fait l'objet d'une réflexion approfondie en psychanalyse à travers la notion de travail du deuil. C'est une notion à laquelle Freud a travaillé dans une période où le sujet était tout particulièrement à l'ordre du jour, au cours de la Première Guerre mondiale et pendant les grandes offensives de 1915, qui ont fait des centaines de milliers de morts. Deux textes essentiellement consacrés à ces questions, considérations actuelles sur la guerre et la mort, et deuil et mélancolie. Si on se rapporte à ce que nous en dit Freud, le travail du deuil est tout d'abord lié à l'attitude générale, à la fois pragmatique et ritualisée, de la société à l'égard de ce phénomène physique, le décès, mais se trouve également lié pour chaque individu à une aspiration elle-même plus ou moins ritualisée à l'immortalité. Freud observe qu'on peut mettre sur le même plan des usages conventionnels qui s'expriment dans des interdits et des rites collectifs et des affects subjectifs qui en seraient l'équivalent dans l'individu. Par exemple, de même que dans notre civilisation on a le devoir de s'abstenir de toute critique à l'égard des morts, de même, en formant la fiction de sa propre mort, on se sent en droit d'attendre, de la part de ses proches, un certain comportement qui est celui de l'affliction. De même, enfin, devant la mort d'une personne proche, on ressent soi-même une douleur violente, aussi intense que s'il s'agissait, à proprement parler, de sa propre disparition.
Quelqu'un est mort tout près d'ici. Je ne sais plus si c'est un voisin, ou moi, ou quelqu'un dans un livre.
À cette attitude conventionnelle que la civilisation nous impose à l'égard de la mort, fait pendant l'état de consternation, d'effondrement complet dans lequel nous plonge la mort d'une personne proche. Il nous semble qu'avec elle, nous enterrons nos espérances, nos ambitions, nos joies. Nous refusons toute consolation et déclarons qu'il s'agit d'une mort irremplaçable. Sigmund Freud, Considérations actuelles sur la guerre et la mort, 1915.
Cette douleur n'est pas seulement conventionnelle, c'est une vraie douleur. Mais d'où vient-elle ? À la fois de l'extérieur de moi, par l'absence de la personne qui vient de mourir, et de l'intérieur de moi, du fait que quelque chose en moi ne parvient pas à admettre cette absence. Certes, en général, je me rends bien compte que l'objet aimé qui vient de mourir n'existe plus. Mais la structure de mon désir et de mes affects envers cette personne est toujours opérationnelle en moi, au point que l'objet existe toujours bel et bien sous cette forme. Le travail du deuil est le processus par lequel je vais finir par déconstruire cette structure libidinale et la remplacer par une autre structure. Pour y parvenir, il va me falloir effectuer tout un travail pour que ma libido se retire de cet objet et se réinvestisse autrement et sur d'autres objets de substitution. Il s'agit bien d'un travail, c'est-à-dire de quelque chose de pénible, qui peut ressembler à un supplice même, et qui en tout cas demandera du temps, de la volonté et des efforts. La médiation entre constat et acceptation de la disparition de l'objet aimé n'est pas un donné, mais quelque chose qui doit se construire par une redistribution des énergies pulsionnelles. Ce travail du deuil est un des processus où s'observe le mieux cet aspect économique des pulsions.
Chacun des souvenirs, chacun des espoirs par lesquels la libido était liée à l'objet est mis sur le métier, surinvesti, et le détachement de la libido est accompli sur lui. Sigmund Freud, Deuil et mélancolie, 1915.
Une fois ce travail du deuil achevé, le moi redevient libre et sans inhibition. Si quelque chose se bloque et s'interrompt dans le travail de réaménagement psychique des pulsions, le travail du deuil reste inachevé et il peut s'en suivre des conséquences graves, non seulement pour la santé mentale du sujet, mais aussi pour ceux de son entourage, sur qui il reporte ses attentes et ses désirs. Cette théorie du travail du deuil a été utilisée par Freud pour comprendre le problème de la mélancolie qui ressemble à un deuil non résolu. Réciproquement, cette théorie de la mélancolie a permis en retour de mieux cerner les raisons d'un éventuel dysfonctionnement dans le travail du deuil. La mélancolie, selon Freud, présente toutes les caractéristiques du deuil.
Une dépression profondément douloureuse, une suspension de l'intérêt pour le monde extérieur, la perte de la capacité d'aimer, l'inhibition de toute activité, ainsi que la diminution du sentiment d'estime de soi, qui se manifeste par des auto-reproches et des auto-injures, et qui peut aller jusqu'à l'attente délirante du châtiment.
La mort.
Sigmund Freud, Métapsychologie, 1915.
La mort.
À l'exception du dernier point, ce tableau clinique de la mélancolie est comparable avec ce qui s'observe dans le phénomène de deuil que personne ne juge pathologique. C'est qu'à l'origine du deuil, comme de la mélancolie, il y a la perte d'un objet aimé. Ce qui distingue la mélancolie et certains deuils pathologiques de ce que nous considérons comme un deuil normal, c'est la présence dans le sujet d'un sentiment d'ambivalence à l'égard de l'objet aimé, dont la disparition peut à la fois avoir été redoutée et inconsciemment désirée. Ce sentiment explique les reproches que s'adresse le sujet, la sensation de culpabilité qui accompagne alors le travail du deuil ne lui permet plus d'aller jusqu'au bout du processus de rééquilibrage des pulsions. Se jugeant inconsciemment responsable de la perte, le sujet ne parvient pas à accepter la mort ou l'éloignement de l'objet d'amour et pourra se réfugier dans une conduite pathologique, de type régressif, sous la forme d'un état maniaque ou d'un comportement suicidaire.
La mort. La mort,
la mienne n'aura pas, comme dans le Larousse, un squelette, un linceul, dans la main, une foule. Mes filles de 20 ans, à chevelure rousse, en voile de mariée, elle aura ce qu'il faut. La mort, la mort. De grands yeux d'océan, une voix de génie, des lèvres carmin, douce, elle apaisera sur sa poitrine nue mes paupières brûlées, ma gueule.
Serge Tisseron, vous êtes psychiatre et psychanalyste, directeur de recherche à l'université Paris 10 et membre du comité de rédaction des cahiers de médiologie. Vous êtes l'auteur de nombreux articles et ouvrages sur la bande dessinée, le statut et l'impact des images. Vous travaillez sur la notion de secret, sur l'évolution de notre relation aux nouvelles technologies de l'image. Et vous venez de faire paraître un ouvrage de synthèse, Les bienfaits de l'image, chez Odile Jacob. Sur cette question du travail du deuil, Serge Tisseron, de quoi fait-on son deuil? Qu'est-ce que c'est que perdre ses illusions? Est-ce le deuil de soi-même? De quoi fait-on son deuil?
Oui, alors, quand Freud construit sa théorie du deuil, en fait, il est encore complètement dans sa théorie de l'Oedipe, c'est-à-dire, nous avons tous de l'affection pour nos proches, mais aussi de la haine, et alors Freud cherche à comprendre comment, au moment où quelqu'un qui nous est cher disparaît, nous cherchons à nous accommoder, non seulement de l'affection qu'on a eue pour lui, hein, on est privé de sa présence, ça nous fait de la peine, mais Freud se demande aussi comment on se débrouille de la haine qu'on a eue pour cette personne. Et c'est là que Freud conçoit l'idée que cette haine, eh bien, on va la retourner contre soi. Et donc, le travail du deuil pour Freud, c'est cette gestion intérieure d'une haine qu'on retourne contre soi parce qu'on ne peut plus la tourner contre l'environnement. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que pendant très longtemps, les deuils ont été extrêmement codifiés, extrêmement organisés socialement pour permettre justement à la personne affectée par un deuil de s'y abandonner, puis d'en sortir petit à petit, hein, on parlait comme ça de grand deuil, de petit deuil, les rites du deuil, etc. Alors, ce qui est intéressant dans cette approche de Freud, c'est qu'en effet, elle prend en compte l'ambivalence des sentiments, mais ce qu'on peut dire aujourd'hui problématique dans cette approche de Freud, c'est qu'elle n'insiste pas suffisamment sur quelque chose dont on a découvert l'importance depuis Freud, c'est l'attachement. C'est le fait que si quelqu'un nous est ôté par un décès, eh bien, il faut pas seulement se débrouiller de l'affection pour lui, de la haine pour lui, mais aussi de toutes les habitudes qu'on avait mises en place avec cette personne, de faire son marché avec lui le week-end, de s'habituer à lui dire bonjour le matin. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on est amené à repenser le travail du deuil comme une manière de remettre sur le métier, pas seulement les sentiments, mais aussi les comportements de la vie quotidienne qui avaient été adoptés avec cette personne disparue.
Faut prendre la mort du bon côté. Pensez à ceux qui vont pleurer, ceux qui applaudissent quand on sort. Faut prendre du bon côté la mort.
Donc, le travail du deuil, c'est les phases d'un processus aussi, un processus dans lequel il peut y avoir une part de déni, Serge Tisseron, c'est-à-dire au fond de refus d'accepter la réalité d'une disparition.
Oui, absolument. Et alors, tout le monde sait bien que les gens qui ont perdu quelqu'un de proche ont parfois tendance à l'entendre, même certaines ont ce qu'on appelle des hallucinations. Ils croient tout d'un coup le voir dans la cognure d'une porte ou dans la chambre à coucher où le disparu se tenait habituellement. Et pendant très longtemps, et notamment à la suite de Freud, on a considéré que ces voix ou ces hallucinations, ou disons ces comportements exploratoires de chercher la personne disparue comme si elle était toujours vivante, on a eu tendance à penser que ça relevait en effet du déni, c'est-à-dire d'un refus de reconnaître la réalité du décès. Et puis on s'est aperçu aujourd'hui que, en fait, tous ces comportements sont normaux. Le fait de se déplacer dans une maison en explorant du regard l'environnement pour y trouver le disparu, le fait d'appeler même la personne perdue, le fait de penser intensément à elle comme si elle allait apparaître tout d'un coup. On s'est aperçu que tout cela était normal et que tout cela nécessitait de pouvoir être dit, échangé avec quelqu'un pour pouvoir faire la place à une meilleure acceptation de la disparition.
Et au fond, une meilleure acceptation de la disparition, c'est quelque chose qui peut même vraisemblablement devenir positif, comme la découverte d'un sens, qui serait une sorte de conversion du moi en plus.
Alors, on s'aperçoit que l'environnement joue un rôle extrêmement important. On l'a toujours su, hein. Les deuils qui sont les mieux réussis, c'est ceux qui sont les mieux accompagnés. Alors, pendant très longtemps, cet accompagnement, il se faisait à travers les rituels du deuil, et notamment le port d'habits caractéristiques du deuil. Alors, aujourd'hui, on s'aperçoit que cet accompagnement, il est tout aussi important, mais il passe beaucoup plus par la nomination de ce qui a été vécu avec le disparu. Et aujourd'hui, on accorde beaucoup d'importance au fait que lorsque quelqu'un perd un mari, un père, eh bien, elle est autour d'elle des personnes avec qui parler des derniers moments de la vie du proche disparu, mais aussi éventuellement des moments de la rencontre avec elle, et puis aussi des bons moments qui ont été passés avec elle, de telle façon, vous voyez, que ce n'est pas les différentes émotions vécues qui sont remises sur le métier, comme on croyait à l'époque de Freud, mais c'est les différents secteurs de mémoire. Et on s'aperçoit que même quand ce travail est très bien fait, eh bien, un deuil ne se termine jamais. Et là, je ne peux pas résister au plaisir de vous citer la phrase que prononçait une femme de 60 ans qui avait perdu son mari 5 ans avant. Cette femme disait « Le deuil ne se termine jamais, mais comme le temps passe, il fait irruption moins fréquemment. » Eh bien, je crois que dans le travail du deuil, c'est en effet la seule chose qu'on soit en droit de souhaiter et d'essayer de mettre en place.
Frères humains qui après nous vivaient, n'ayez les cœurs contre nous endurcis. Car, si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci.
Alors, vous avez beaucoup insisté sur l'aspect, je dirais, presque relationnel du deuil. Est-ce que le deuil n'est pas aussi, et très largement, une question sociale? Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un deuil national?
Alors, les deuils sociaux, les deuils collectifs ont un aspect commun au deuil privé, c'est que chacun a un travail personnel de deuil. Vous savez, dans les grandes causes nationales, il y a toujours, on pourrait dire, une partie commune à un certain nombre de personnes qui constituent la communauté, et puis il y a toujours aussi une partie variable et propre à chacun. Prenons par exemple le cas du deuil de l'Algérie, le deuil de l'Algérie française. Il est bien évident qu'il y a une partie commune qui concerne un grand nombre de gens, il y a des événements qui ont été partagés par beaucoup de gens, et tous les gens qui ont vécu cette période doivent en effet accepter de renoncer que l'Algérie soit restée française, et donc il y a là quelque chose de commun à un grand nombre de gens. Mais il est bien évident en même temps que chaque personne qui a vécu cette période a une relation ou avait une relation privilégiée à des proches qui se trouvaient dans ce pays lui-même, et voyait que chacun a aussi un travail à faire pour lui-même. Je crois que c'est un petit peu toute l'ambiguïté du monument. Le monument est en général construit pour permettre aux personnes d'une communauté de faire leur deuil d'un événement important de l'histoire, mais en même temps, ça ne doit pas cacher le fait que chacun a ses petits monuments intérieurs et que chacun a son deuil à faire dans sa forme la plus personnelle.
Ce qui me frappe, il y a peut-être quand même une évolution récente qui est assez troublante sur la question du deuil et du travail du deuil. Il me semble que jusqu'aux années pratiquement 2000, on était en face d'une civilisation qui avait hâte d'enterrer ou de brûler ses morts, de faire disparaître la mort le plus possible de l'environnement, et que quelque chose est en train de se retourner. Je vois deux signes, enfin très différents. Le succès, par exemple, à la télévision de cette série américaine qui s'appelle Six pieds sous terre, qui est une série totalement liée à l'exploration narrative du milieu de l'enterrement, de la mort. Et puis l'autre grande évolution, alors là qui concerne des choses beaucoup plus sérieuses, qui concerne notre structure hospitalière et notre conception de la fin de vie, c'est la montée en puissance des services de soins palliatifs, le travail très approfondi sur les conditions de l'accompagnement à la mort. Est-ce que vous ne pensez pas, Serge Tisseron, que nous sommes en train de nous réconcilier d'une certaine façon avec la mort?
C'est une vision assez optimiste. Disons que on essaye de ne pas être trop fâché avec la mort, mais se réconcilier, c'est peut-être beaucoup dire. Alors, c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une période où on remet en route des formes traditionnelles d'accompagnement de la mort qui avaient disparu. Il ne faut pas oublier que jusque dans les années 50, beaucoup de gens mouraient à domicile. Et puis, du fait de l'extrême médicalisation de la fin de vie, la plupart des gens, à partir des années 60, ont commencé à mourir à l'hôpital. Et puis, pour des raisons d'encombrement hospitalier, pour des raisons de gestion des équipes soignantes, de plus en plus, ces gens sont morts seuls, c'est-à-dire seuls avec des soignants, mais pas avec leur famille. Et on s'est aperçu que ça avait des conséquences catastrophiques. On s'est aperçu que les épouses, les époux, les enfants des disparus avaient énormément de difficultés à résoudre les problèmes de deuil lorsque, justement, elles n'avaient pas pu assister au dernier moment du disparu ou faire quelque chose pour faciliter ces derniers moments. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on est plus dans une période de réintroduction de la mort dans nos sociétés, mais on ne le fait pas, évidemment, comme c'était avant les années 50, on le fait autrement et on le fait notamment avec quelque chose quand même qui est formidable, qui est l'hospitalisation à domicile, c'est-à-dire la possibilité pour quelqu'un de bénéficier de l'ensemble du plateau technique dont dispose actuellement le corps médical tout en pouvant mourir dans son environnement familier avec ses proches.